Le récit du poète. Les chants d'Hyperion.
Au commencement était le verbe, puis arriva le traitement de texte et leur foutu processeur de pensée. La mort de la littérature s'ensuivit. Ainsi va la vie. Francis Bacon a déclaré un jour « De la mauvaise et inadéquate formation des mots découle une délicieuse obstruction de l'esprit. » Nous avons tous eu nos moments de délicieuse obstruction, n'est-ce pas? Et moi un peu plus que les autres. L'un des plus grands écrivains du XXe siècle, aujourd'hui oublié, l'écrivain, pas le siècle, a eu un jour ce bon mot. J'adore le métier d'écrire. C'est l'encre et le papier que je ne peux pas voir. Vous saisissez? Eh bien, amigos et amiguettes, j'adore le métier de poète. Ce sont ces putains de mots que je ne peux pas supporter. Par où commencer? Par Hyperion, peut-être. Fondu. Près de 2 siècles standard plus tôt, les 5 vaisseaux d'ensemencement du roi Billy le Triste spiralent comme des pissenlits dorés sur le fond lapis d'un ciel qui ne nous est que trop familier. Nous nous posons comme des conquistadors à la parade. Plus de 2000 créateurs des arts visuels, écrivains, sculpteurs, poètes, aérénistes, vidéo et holoréalisateurs, compositeurs et décompositeurs, j'en passe et des meilleurs, entourés de 5 fois leur nombre d'administrateurs, techniciens, écologistes, superviseurs, chambellans et autres lèche-cul professionnels, sans mentionner la famille des culs royaux en chair et en os, entourée à son tour de 10 fois son nombre d'androïdes prêts à retourner la terre, à pelleter le charbon dans les réacteurs, à édifier des cités, à coltiner un fardeau ou un autre. Vous voyez le tableau, quoi. Nous avions posé le pied sur un monde déjà ensemencé par de pauvres bougres qui avaient régressé à l'état primitif 2 siècles plus tôt et qui survivaient au jour le jour, selon la loi du gourdin, comme ils pouvaient. Naturellement, les nobles descendants de ces vaillants pionniers nous prirent pour des dieux, surtout après que quelques représentants de nos forces de sécurité eurent scorifié 2 ou 3 des plus agressifs d'entre eux. Tout aussi naturellement, nous acceptâmes leur vénération comme un dû et nous les fîmes travailler pour nous aux côtés de nos peaux bleues, labourant le 40e Sud et édifiant notre rutilante cité sur la colline. Pour une rutilante cité, on peut dire que c'en était une. Les ruines que vous voyez aujourd'hui ne peuvent pas vous donner une idée de ce qu'était cette cité. Le désert en 3 siècles s'est avancé et les aqueducs venus de la montagne se sont écroulés. Il ne reste plus qu'un squelette. Mais, à son heure de gloire, la cité des poètes était resplendissante. L'Athènes de Socrate, avec le piment intellectuel de la Venise de la Renaissance, plus la ferveur artistique du Paris des impressionnistes, la vraie démocratie de la première décennie d'Orbit City et l'avenir sans fin de Tossetti Central. Vers la fin, bien sûr, il ne restait plus rien de toute cette splendeur. Il n'y avait plus que le claustrophobique hall à hydromel de Hrodgar avec le monstre qui attendait dans les ténèbres de l'extérieur. Nous avions notre Grendel, pour sûr. Nous avions même notre Hrodgar, si l'on veut bien serrer un peu les paupières en regardant le profil pathétique et quelque peu voûté du roi Billy le Triste. Il ne nous manquait que les Geats, notre grand Beowulf aux larges épaules et à la petite cervelle, avec sa bande de joyeux psychopathes. C'est pourquoi, faute d'avoir un héros, nous nous sommes cantonnés dans les rôles de victimes, composant nos propres sonnets, répétant nos ballets et déroulant nos parchemins pendant que notre Grendel aux épines d'acier emplissait la nuit de terreur et moissonnait les fémurs et les cartilages. C'est vers cette époque que, sous l'apparence d'un satyre dont la chair était le miroir de l'âme, je me trouvais plus près de finir mes cantos, l'œuvre de toute ma vie, que je ne me suis jamais trouvé au cours de ces 5 siècles de poursuite opiniâtre. Fondure noire. Il me vient à l'esprit que l'histoire de Grendel est quelque peu prématurée. Les personnages ne sont pas encore en scène. Les scénarios dislinéaires et la prose non contiguë ont leurs défenseurs, dont je ne suis pas le moindre, mais au bout du compte, mes amis, c'est le personnage qui gagne ou perd l'immortalité sur le vélin. N'avez-vous jamais eu le secret sentiment que quelque part, en cet instant même, Huckleberry Finn et son ami Jim font avancer leur radeau sur une rivière lointaine et qu'ils sont beaucoup plus réels que le chausseur oublié qui vous a vendu une paire de souliers pas plus tard qu'hier. N'importe comment, s'il faut que cette putain d'histoire soit racontée, il faut aussi que vous sachiez qui est dedans. Par conséquent, et croyez qu'il m'en coûte, je suis obligé de commencer par le commencement. Au commencement était le verbe, et le verbe était programmé en langage binaire. Et le verbe dit « que la vie soit ». C'est ainsi que quelque part au plus profond des voûtes du technocentre du domaine de ma mère, le sperme congelé de mon papa depuis longtemps décédé fut décongelé, mis en suspension, secoué comme les milkshakes à la vanille d'antan, fourré dans un engin qui ressemblait pour moitié à un pistolet à eau et pour moitié à un godemiché, puis éjaculé en appuyant sur une poire magique dans ma maman à l'époque où la lune était pleine et l'ovule à point. Il n'était pas vraiment indispensable que ma maman se fasse imprégner de cette manière barbare naturellement. Elle aurait pu opter pour une fécondation ex utero, pour un amant auquel on aurait greffé l'ADN de papa, pour un clone de substitution, pour une naissance virginale à base de greffe génétique ou tout ce que vous voudrez. Cependant, comme elle me l'a confié bien plus tard, elle a préféré ouvrir les jambes à la tradition. J'ai idée qu'elle y a pris son pied. Quoi qu'il en soit, je naquis ainsi. Oui, je suis bien né sur la terre, l'ancienne terre, et allez vous faire empaler la mienne si vous ne me croyez pas. Nous vivions dans le domaine de ma mère, sur une île qui n'est pas très éloignée de la grande réserve d'Amérique du Nord. Note pour la description de la maison natale sur l'ancienne terre. Crépuscule fragile, passant du violet au fuchsia, puis au pourpre, au-dessus des silhouettes de papier crépon des arbres, qui prolongent la perspective de la pelouse au sud-ouest. Le ciel, que ne trouble aucun nuage ni aucune traînée de condensation, a la transparence délicate de la porcelaine de Chine. Silence présymphonique de la première lueur de l'aube, suivi du coup de cymbale du lever de soleil dont l'orange et le roux s'illuminent d'or. Puis c'est la longue et froide descente vers le vert, ombre des frondaisons de cyprès et de saules pleureurs, feutre vert des clairières. Le domaine de ma mère, notre domaine, occupe 500 hectares centrés au milieu d'un million d'autres. Ces pelouses ont la taille de petites prairies dont l'herbe est si parfaite qu'elle invite à s'y coucher pour une douce sieste. Les essences nobles servent de cadran solaire à la terre. Leur ombre tourne sans relâche, se contractant à midi, se profilant à l'est lorsque le jour vient à mourir. Chêne royal, orme géant, peupliers du Canada, cyprès, séquoias, bonsaï, banyans abaissant leur nouveau tronc comme les colonnes lisses d'un temple auquel le ciel sert de toit. Saules alignés le long des canaux soigneusement quadrillés ou de cours d'eau capricieux dont les longues branches peuvent lancer au vent d'antiques chants funèbres. La maison se dresse au sommet d'une basse colline où, l'hiver, les courbes brunes du sol ressemblent aux flancs lisses de quelque animal femelle, aux muscles puissants faits pour la course. La construction accuse le poids des siècles accumulés. Une tour de jade sur la cour de l'est capte le premier rayon de l'aube. Une série de pignons au sommet de l'aile sud projette ses triangles d'ombre sur la serre de cristal à l'heure du thé, tandis que les terrasses et le dédale des escaliers extérieurs, le long des galeries à colonnades de la façade à l'est, jouent leur jeu d'échelle avec les ombres de l'après-midi. C'était après la grande erreur, mais avant que tout ne devienne inhabitable. Nous occupions principalement le domaine durant ce que nous appelions, assez curieusement, les périodes de rémission, qui étaient des oasis de 10 à 18 mois de tranquillité relative entre deux spasmes planétaires, tandis que ce putain de mini-trou noir du groupe de Kiev digérait les morceaux de choix du cœur de la Terre en attendant le prochain festin. Pendant les périodes chaudes, nous allions en villégiature chez l'oncle Kowa, dans la banlieue de la Lune, sur un astéroïde terraformé amené là avant la migration extro. Vous êtes peut-être en train de vous dire que je suis né avec une putain de petite cuillère d'argent entre les biches. Je ne chercherai pas à me disculper. Après 3 ans de bricolage raté autour de la notion de démocratie, Les familles survivantes de l'ancienne terre en étaient arrivées à la conclusion que la seule manière de mettre un terme à la prolifération de toute cette racaille, c'était de l'empêcher de se reproduire, ou plutôt de financer la création de flottes d'ensemencement ou d'exploration par vaisseau à effet de spin, d'encourager les migrations d'Istrance, tous les thèmes égyriens apportés par le vent de panique qui soufflait sur la planète. Qu'ils se reproduisent tant qu'ils veulent, pourvu qu'ils laissent la Terre tranquille. Et le fait que la planète mère était une vieille pute malade qui puait de la bouche n'était pas de nature à arrêter la dite racaille dans son élan. Elle n'était pas si bête. Comme Bouddha, j'avais presque atteint l'âge adulte lorsque je connus les premières atteintes de la pauvreté. J'étais âgé de 16 années standard, en pleine Vanderjahr, et je parcourais l'Inde sac au dos lorsque je rencontrais un mendiant. Les vieilles familles de l'Inde les gardaient en circulation pour des motifs religieux, mais tout ce que je savais à l'époque, c'est que j'avais devant moi un homme en haillons dont on voyait les côtes, qui tendait une corbeille d'osier au milieu de laquelle il y avait un ancien lecteur de crédit et qui suppliait les passants d'y insérer leur plaque universelle. Mes amis jugèrent ce spectacle hystérique. Je me mis à vomir. Cela se passait à Bénarès. Mon enfance fut privilégiée, mais pas outrancièrement. Je conserve un plaisant souvenir de la grande dame Sibylle, c'était ma tante du côté de ma mère, et de ses fastueuses réceptions. Je me rappelle une certaine virée de 3 jours dans l'archipel de Manhattan, où les invités furent amenés d'Orbit City et des archéologies européennes par vaisseau de descente. Je me rappelle l'Empire State Building se dressant sur l'eau avec ses innombrables lumières reflétées dans les lagunes et les canaux bordés de fougères, tandis que les VEM déversaient leurs passagers sur la plateforme panoramique, d'où l'on apercevait les foyers allumés tout en bas sur les îles surpeuplées des gratte-ciels environnants. La grande réserve d'Amérique du Nord était pour nous, en ce temps-là, un vaste terrain de jeu. On dit qu'il restait encore 8000 habitants sur ce mystérieux continent, mais une moitié était composée de vagabonds, tandis que l'autre comprenait des aérénistes renégats qui exerçaient leur art en ressuscitant des espèces végétales et animales depuis longtemps disparues de leur habitat nord-américain antédiluvien. Des ingénieurs écologistes, des primitifs patentés tels les Sioux Ogallala ou la confrérie des Hells Angels, sans compter bien sûr les touristes occasionnels. J'avais un cousin qui prétendait parcourir la réserve sac au dos d'une zone panoramique à l'autre, mais ses déplacements se limitaient en réalité au Middle West, où ces zones étaient relativement proches les unes des autres et où les hordes de dinosaures étaient beaucoup moins nombreuses. Durant le siècle qui suivit la Grande Erreur, Gaïa, grièvement blessée, fut néanmoins lente à mourir. L'effet de dévastation était plus prononcé durant les périodes chaudes, qui revenaient régulièrement en spasmes précisément programmés, suivis de rémissions de plus en plus courtes et de conséquences de plus en plus terribles. Cependant, chaque fois, la planète tenait bon et se réparait du mieux qu'elle pouvait. Comme je l'ai dit, la grande réserve était notre terrain de jeu, mais la terre agonisante l'était aussi au sens propre. Ma mère m'avait offert mon premier VEM lorsque j'avais 7 ans, et aucun endroit du globe ne se trouvait à plus d'une heure de vol de chez nous. Mon meilleur copain, Amalfi Schwartz, habitait dans le grand ensemble du mont Erebus, sur le territoire de l'ancienne République de l'Antarctique. Nous nous retrouvions tous les jours. Le fait que les transports d'Istrance fussent prohibés par les lois de l'ancienne Terre ne nous gênait pas le moins du monde. Étendus côte à côte, la nuit, sur le versant de quelques collines, contemplant dans le ciel les 10 000 lumières en orbite, les 20 000 feux de la ceinture et les 2 ou 3 000 étoiles visibles, nous ne ressentions aucune jalousie, aucun désir de rejoindre l'égire qui, en ce moment même, tissait la toile d'Istrance du Retz. Nous étions tout simplement heureux. Les souvenirs que je conserve de ma mère sont étrangement stylisés, comme si elle n'était qu'un personnage issu de mon cycle de romans de la Terre qui meurt. Ce n'est pas totalement à exclure. Peut-être ai-je été élevé par des robots dans les cités automatisées d'Europe, nourri au sein par des androïdes du désert de l'Amazonie. Peut-être ai-je simplement germé dans une cuve comme la levure de bière. Ce qui reste de ma mère dans mon souvenir, c'est une longue robe blanche qui glisse sans bruit, comme un fantôme dans l'ombre des grandes salles du domaine, ou bien les veines bleues d'une délicatesse infinie sur le dos de ses mains aux doigts effilés, tandis qu'elle sert le thé dans la lumière damasquinée de poussière d'or de notre serre, ou bien encore la lueur d'une bougie capturée comme une mouche d'or dans la toile luisante de sa chevelure, relevée en chignon dans le style des grandes dames du temps jadis. Il m'arrive de rêver que j'entends sa voix dans toute sa centralité berçante et fétale. Mais lorsque je me réveille, il n'y a plus que le vent qui agite les rideaux de dentelle, ou bien les bruits d'un océan inhumain qui fait crisser les galets. Dès que j'ai été en âge de penser par moi-même, j'ai su que je serais, qu'il fallait que je sois, poète. Ce n'était pas comme si j'avais eu vraiment le choix. C'est plutôt comme si toute cette beauté agonisante qui m'entourait rendait en moi son dernier soupir et m'ordonnait, me condamnait à passer le restant de mes jours à jouer avec les mots, en expiation peut-être, du massacre irréfléchi de son propre monde berceau par notre race. Poète, je devins donc pour le meilleur et pour le pire. J'avais un précepteur du nom de Balthazar, humain mais décrépit, rescapé des antiques ruelles odoriférantes d'Alexandrie, d'une pâleur presque bleue à force d'avoir subi tous ses traitements poulsènes. On aurait dit une momie irradiée incluse dans du plastique liquide. Et avec ça, aussi lubrique que le bouc proverbial. Des siècles plus tard, dans ma période de satire, je pense que j'ai fini par comprendre les pulsions priapiques de ce pauvre Don Balthazar. Mais à cette époque, c'était plutôt embarrassant pour les petites filles qui faisaient partie du personnel du domaine. Humaines ou androïdes, Balthazar ne faisait pas le détail, elles y passaient toutes. Heureusement pour moi et pour mon éducation, le goût prononcé de Don Balthazar pour les tendrons n'avait aucune composante homosexuelle. Ces frasques ne se traduisaient pour moi que par des absences à nos séances de répétition ou par une propension excessive à me faire apprendre par cœur des vers d'Ovide, de Sénèche ou de Vue. Ce fut, au demeurant, un excellent précepteur. J'étudiais avec lui les classiques de la dernière période et les anciens. Il me montra les ruines d'Athènes, de Rome, de Londres et d'Hannibal dans le Missouri. Je n'avais jamais d'interrogation, de contrôle ni d'examen. Il voulait que je retienne tout par cœur dès le premier contact, et je ne l'ai jamais déçu sur ce point. Il parvint à convaincre ma mère que les traquenards de l'éducation progressiste n'étaient pas pour une famille de l'ancienne terre, de sorte que je ne connus jamais les raccourcis mentaux acrobatiques de la thérapie ARN, de l'immersion totale dans l'infosphère, du flashback systémique, des groupes transcendantaux, de la pensée élevée aux dépens des fêtes ou encore de la programmation préscolaire. La conséquence de toutes ces lacunes fut que dès l'âge de 6 ans, j'étais capable de réciter par cœur toute la traduction donnée par Fitzgerald de l'Odyssée, que je composais une sextine avant de savoir m'habiller tout seul, et que je pensais en vers de fugue spiralée avant même ma première interface avec une IA. Mon éducation scientifique, par contre, manqua quelque peu de rigueur. Don Balthazar n'éprouvait qu'un intérêt limité pour ce qu'il nommait le côté mécanique de l'univers. J'atteignis 22 ans avant de m'apercevoir que les ordinateurs, les UMT et les systèmes de vie de l'astéroïde de mon oncle Koa étaient des machines et non des manifestations bienveillantes des animaux qui nous entouraient. Je croyais dur comme fer aux lutins, aux fées, à la numérologie, à l'astrologie et à la magie de la nuit de la Saint-Jean au fond des forêts primitives de la Grand. Comme Keats et Lamb dans le studio de Haydon, Don Balthazar et moi portions des toasts à la confusion des mathématiques et pleurions la destruction de la poésie de l'arc-en-ciel par le prisme indiscret de H. Newton. Plus tard dans la vie, cette défiance, je peux même dire cette haine, inculquée en moi de manière précoce, de tout ce qui est scientifique ou clinique, devait beaucoup me servir. Il n'est guère difficile, ai-je appris, de vivre en païen pré-copernicien dans l'hégémonie post-scientifique. Mes premiers poèmes étaient exécrables. Comme c'est le cas pour la plupart des mauvais poètes, je n'avais pas conscience de ce fait, ancré que j'étais dans mon arrogance et dans la croyance stupide que l'acte de création en soi confère de la valeur aux avortons sans valeur que l'on engendre en son nom. Ma mère faisait preuve d'une exquise tolérance, tandis que je semais dans toute la maison d'infâmes mirlitons fumeux. Elle avait toujours été indulgente envers son unique enfant, même lorsque celui-ci était aussi incontinent qu'un lama insouciant et non apprivoisé. Don Balthazar, lui, ne faisait aucun commentaire sur mes œuvres, principalement, je suppose, parce que j'évitais de les lui montrer. Il estimait, de toute manière, que le vénérable Dayton était un escroc, que Salmute Brévy et Robert Frost auraient dû se pendre avec leur propre boyau, que Wordsworth était un crétin et que tout ce qui était au-dessous des sonnets de Shakespeare représentait une profanation du langage. Je ne voyais aucune raison d'ennuyer Don Balthazar avec mes vers, même si je me savais un génie en herbe. Je publiais plusieurs de ses crottes littéraires dans divers périodiques sur papier, alors en vogue dans les principales arcologies des grandes maisons d'Europe, les responsables amateurs de ces publications étant aussi désireux d'obliger ma mère qu'elle l'était de me faire plaisir. De temps à autre, je priais Amalfi ou l'un de mes autres compagnons de jeu, moins aristocrate que moi et donc branché sur l'infosphère ou sur les modulateurs distrance, de transmettre quelques-unes de mes œuvres dans la ceinture ou sur Mars, d'où elles prendraient peut-être le chemin distrance des lointaines colonies alors en plein essor. Mais ils ne donnèrent jamais suite à mes demandes, et j'en concluais qu'ils étaient trop absorbés par leurs occupations. La croyance en une identité de poète ou d'écrivain avant l'épreuve du feu de la publication est aussi naïve et dérisoire que la croyance d'un enfant en sa propre immortalité. Et les désillusions qui s'ensuivent sont tout aussi douloureuses. Ma mère rendit son dernier soupir en même temps que l'ancienne terre. La moitié environ des anciennes familles étaient encore là au moment du dernier cataclysme. J'avais alors 20 ans et j'avais conçu le projet romantique de m'éteindre avec ma planète natale. Mais ma mère en décida autrement. Ce n'était pas tant ma disparition prématurée qui la préoccupait. Tout comme moi, elle avait une tournure d'esprit beaucoup trop égocentrique pour penser à quelqu'un d'autre en un moment pareil. Ni même le fait que l'extinction de l'ADN que je portais en moi signifierait la fin d'une longue lignée d'aristocrates remontant jusqu'au Mayflower. Non. Ce qui la tracassait, c'était que la famille allait mourir avec des dettes. Nos 100 dernières années d'extravagance, semble-t-il, avaient été financées au moyen de prêts massifs accordés par la Banque de la Ceinture et quelques autres discrets établissements extraterrestres. Maintenant que les continents de la Terre se craquelaient, que les grandes forêts étaient en flammes, que les océans brûlants se soulevaient en une soupe stérile, que l'air lui-même se transformait peu à peu en un magma trop chaud et trop épais pour être respiré, mais pas encore assez consistant pour être labouré, les banques demandaient à être remboursées. Et j'étais solidaire. Ou plutôt, c'était le calcul de ma mère qu'il était pour moi. Elle liquida tous nos avoirs quelques semaines avant qu'ils ne fussent liquéfiés au sens physique du terme. Puis elle déposa 250 000 marks sur un compte à long terme à la Banque de la Ceinture avant le transfert précipité de son agence et m'expédia en villégiature dans le protectorat atmosphérique de Rifkin sur Heaven's Gate, une planète mineure qui orbitait autour de l'étoile Vega. Même à cette époque reculée, ce monde toxique possédait une liaison distance avec le système solaire, mais je n'en fis pas usage. Je ne voyageais pas non plus à bord de l'unique vaisseau à effet de spin, équipé d'un propulseur Hawking qui faisait escale sur Heaven's Gate une fois par année standard. Non. Ma mère m'avait envoyé sur ce caillou du bout du monde à bord d'une vieille statofusée de la 3e génération, infraluminique, bourré d'embryons de veaux congelés, de jus d'orange lyophilisé et de virus nourriciers pour un voyage qui devait durer 129 années de vaisseau avec un déficit de temps objectif qui s'élevait à 167 années standard. Ma mère avait calculé que les intérêts cumulés de son dépôt à long terme suffiraient à éponger la dette familiale et peut-être à me faire vivre confortablement pendant quelque temps. Pour la première et la dernière fois de sa vie, cependant, elle avait fait une erreur dans ses calculs. Note pour une esquisse d'Evans Gate. Rue bourbeuse rayonnant à partir des docks de transformation de la station comme des stigmates sur le dos d'un lépreux. Nuages d'un brun soufré pendant en haillons d'un ciel de jute pourrie. Un enchevêtrement informe de structures de bois à moitié rongées avant même d'avoir été entièrement achevées, et les fenêtres sans carreaux tournent leur regard aveugle vers les bouches béantes de leurs voisines. Indigènes se reproduisant comme des humains, je suppose. Infirmes sans yeux, les poumons brûlés par l'atmosphère pourrie, escortant un chapelet d'enfants à la peau boursouflée, autour de 5 années standard, aux yeux chassieux et larmoyants à cause d'une atmosphère empoisonnée qui les tuera avant la quarantaine. Leur sourire est carié, leurs cheveux gras pullulent de poux et de tiques draculéennes à la panse gonflée de sang. Des parents sourient fièrement. 20 millions de ces bouseux entassés dans des bidonvilles qui débordent d'une île plus petite que la pelouse de l'aile ouest de ma demeure familiale sur l'ancienne terre, luttant pour respirer le seul bloc d'atmosphère respirable sur une planète où inhaler ailleurs, c'est mourir, se pressant le plus près possible du centre d'un cercle de moins de 100 kilomètres, qui demeure le seul lieu de survie depuis que la station de production d'atmosphère est tombée en panne. Evans Gate, ma nouvelle patrie. Ma mère n'avait pas envisagé la possibilité que tous les comptes de la Terre fussent gelés, puis absorbés par l'économie en pleine croissance du RETS. Elle ne s'était pas rappelée non plus que la raison pour laquelle les gens avaient attendu le propulseur Hawking avant d'aller voir comment était fait le bras spiralé de la galaxie était que dans le sommeil cryotechnique de longue durée, contrairement à ce qui se passe dans une fugue de quelques semaines ou de quelques mois, les risques d'accident cérébral irréversible s'élevaient à 16%. J'ai eu relativement de la chance. Quand ils m'ont sorti de ma caisse sur Evans Gate et quand ils m'ont mis à la construction des canaux d'acide à la périphérie, je n'avais subi qu'une seule attaque cérébrale. Physiquement, j'étais bon au bout de quelques semaines de temps local pour le travail au fond des puits de boue. Mentalement, il y avait beaucoup à désirer. Tout le côté gauche de mon cerveau avait été isolé, comme on isole un secteur endommagé dans un vaisseau, à l'aide de portes étanches qui laissent le reste des compartiments atteints exposés au vide spatial. J'étais capable de penser normalement. Je retrouvais rapidement le contrôle du côté droit de mon corps. Seuls les centres du langage étaient endommagés au point de ne plus pouvoir être réparés simplement. Le merveilleux ordinateur organique enfoncé dans mon crâne avait vidé son contenu de mots comme un programme avarié. L'hémisphère droit n'était pas dépourvu de toute capacité de langage, mais seules les unités de communication les plus émotionnellement chargées pouvaient trouver place dans cet hémisphère affectif, et mon vocabulaire se trouvait réduit à 9 mots, ce qui, je devais l'apprendre plus tard, était assez exceptionnel, la majorité des victimes d'AVC n'en retenant que 2 ou 3. Pour la petite histoire, voici quels étaient ces mots. Chier, putain, foufoune, merde, baiser, enfoiré, cul, pipi et caca. Une analyse rapide mettra ici en évidence un certain facteur de redondance. J'avais à ma disposition 6 substantifs, 2 verbes et 1 adjectif, plus un mot qui pouvait servir à la fois de substantif et de verbe, avec des sens différents. Il y avait donc en réalité 3 verbes et 7 substantifs. En outre, 3 mots au moins pouvaient servir d'apostrophe. Mon nouvel univers linguistique était composé de 3 monosyllabes, 5 bisyllabes et 1 trisyllabe. Parmi les bisyllabes, 3 appartenaient au langage de la petite enfance et 2 consistaient en la répétition d'une même syllabe. Ma panoplie d'expressions offrait 3 ou 4 possibilités d'exhortation à s'effacer et 2 références directes à l'anatomie humaine. 6 mots sur 9 correspondaient à deux fonctions d'élimination et 4 à la fonction sexuelle. L'un dans l'autre, c'était suffisant. Je ne dirais pas que je me souviens des 3 années passées au fond des puits de boue et des taudis d'Evansgate avec attendrissement, mais je dois reconnaître que ce furent pour moi des années édifiantes, probablement plus que les 2 premières décennies de ma vie sur l'ancienne Terre. Je m'aperçus bientôt que, avec mon entourage immédiat, Raclure le pelleteur, Onk la terreur des bidonvilles, à qui je payais une taxe de protection, et Kitty la pute décolorée avec qui je piotais quand j'en avais les moyens, mon vocabulaire était bien utile. « Putain merde !» m'écriai-je en gesticulant. « Pipi caca foufoune !»« Je vois !» faisait Raclure, exhibant son unique dent. « Tu veux aller au magasin de la compagnie acheter du chewing-gum aux algues, hein ?»« Enfoiré !» lui répondais-je en souriant. La vie d'un poète ne réside pas seulement dans la dense langage achevé de l'expression, mais également dans la combinaison quasi infinie de la mémoire et de la perception avec une sensibilité particulière à ce qui est perçu et remémoré. Mes 3 années en temps local sur Evansgate, représentant près de 1500 jours standards, me permirent de voir, d'entendre, de sentir et de me rappeler exactement comme si j'avais littéralement connu une seconde naissance. Quelle importance si cette seconde naissance avait eu lieu en enfer ! L'expérience retravaillée est la quintessence de toute véritable poésie, et l'expérience brute était mon cadeau de baptême pour cette seconde vie qui s'ouvrait à moi. Je n'eus pas de problème pour m'adapter à un meilleur des mondes qui avait 1,5 siècle d'avance sur celui d'où je venais. Malgré nos beaux discours sur l'expansion et l'esprit pionnier de ces 5 derniers siècles, nous savons tous à quel point notre univers humain est devenu statique et sclérosé. Nous sommes dans la confortable période d'obscurantisme de l'invention intellectuelle. Les institutions changent peu. Quand elles changent, c'est par une évolution graduelle plutôt que par une révolution. La recherche scientifique se traîne de côté comme un crabe, au lieu de faire des bonds intuitifs en avant, comme par le passé. Les appareils changent encore moins. Les technologies de palier que nous connaissons tous seraient immédiatement identifiables et utilisables pour nos arrière-grands-parents. Pendant mon long sommeil, l'hégémonie était devenue une entité formelle et le Reds avait commencé à prendre sa forme finale. La pangermie avait pris sa place démocratique au bas de la liste des despotes bienveillants de l'humanité. Le technocentre avait fait sécession du service des humains pour leur offrir son aide un peu plus tard en tant que partenaire et non plus comme esclave. Quant aux extros, ils se cantonnaient dans l'ombre et dans leur rôle de némésis. Tout cela n'empêchait pas que la situation évolue peu à peu vers la masse critique, avant même que je ne me retrouve en état de congélation dans mon sarcophage de glace entre des carcasses de porc et des sorbets. Ces prolongements évidents d'anciennes applications exigeaient peu d'efforts de compréhension. En outre, l'histoire vue de l'intérieur est toujours une sombre bouillie digestive bien différente du ruminant trop aisément reconnaissable que les historiens voient de loin. Ma vie était faite uniquement d'Evansgate et des exigences de la survie au jour le jour sur ce monde. Le ciel y avait la couleur éternelle d'un coucher de soleil marron-jaune suspendu comme un plafond qui s'écroule à quelques mètres au-dessus de ma baraque. Celle-ci m'offrait un confort inattendu sous la forme d'une table à manger, d'une paillasse à dormir et à baiser, d'un trou à pisser et à chier, et d'une fenêtre à contemplation silencieuse. Mon environnement était le reflet de mon vocabulaire. La prison a toujours été un endroit stimulant pour les écrivains, en ce qu'elle tue le double démon de la mobilité et de la diversion. Evansgate ne faisait nullement exception à la règle. Le protectorat atmosphérique s'était approprié mon corps, mais mon esprit, ou ce qu'il en restait, m'appartenait encore. Sur l'ancienne Terre, je composais mes poèmes sur un processeur de pensée Persoc Sadu Dekenard, avalé dans un fauteuil rembourré à dossier inclinable, ou bien flottant dans ma barge EM au-dessus des sombres lagunes, ou encore en me promenant à pied, absorbé dans mes pensées dans des berceaux de verdure odoriférants. Les produits exécrables, indisciplinés, mous du poignet et flatulents de ses rêveries créatrices ont déjà été décrits. Mais sur Heaven's Gate, j'avais découvert les vertus stimulantes pour l'esprit du travail physique. Et je devrais dire plutôt du travail physique, brise-membres, éclate-poumons, tord-entrailles, déchire-ligaments et rompt les couilles. Mais tant que le labeur est pesant et répétitif, découvris-je, l'esprit n'est pas seulement libre de vagabonder vers des climats plus cléments, il s'envole littéralement vers les cimes. Sur Heaven's Gate, tout en raclant la merde des canaux à bout dans la lumière rouge de Vega Primo, tout en rampant sur les mains et sur les genoux parmi les stalactites et les stalagmites des bactéries de recyclage qui tapissaient les conduites labyrinthiennes de la station, je devins poète. Tout ce qu'il me manquait, c'était les mots. L'auteur le plus honoré du XXe siècle, William Gass, a déclaré un jour à l'occasion d'une interview: les mots sont les objets suprêmes, ce sont des choses dotées d'esprit. Et c'est vrai, ils sont aussi purs et transcendants que n'importe quelle idée qui projeta jamais son ombre dans la caverne platonicienne de nos perceptions. Mais ce sont aussi des traquenards de tromperies et de perceptions erronées. Les mots déforment notre pensée en l'orientant dans des chemins infinis d'auto-illusion, et le fait que nous passions la plus grande partie de notre vie mentale dans des châteaux de l'esprit construits avec des mots signifie que nous manquons de l'objectivité nécessaire pour nous apercevoir de ces terribles distorsions de la réalité que nous apporte le langage. Exemple. L'idéogramme chinois désignant l'honnêteté est un symbole en deux parties, représentant un homme qui se tient littéralement à côté du mot. Jusqu'ici, c'est très bien. Mais que signifie le mot « intégrité » dans les langues latines disparues, ou bien « patrie », ou « progrès », ou « démocratie », ou « beauté » ? Même dans nos autotromperies, nous devenons des dieux. Un philosophe mathématicien du nom de Bertrand Russell, qui vécut et mourut dans le même siècle que Gass, a écrit « Le langage sert non seulement à exprimer la pensée, mais à rendre possible des pensées qui ne pourraient exister sans lui. » C'est là que se trouve l'essence du génie créatif de l'humanité, et non dans les grands édifices de la civilisation, ni dans les armes flashbang qui peuvent y mettre fin. C'est dans les mots qui fertilisent les nouveaux concepts comme le spermatozoïde attaquant un ovule. On pourrait rétorquer que les enfants siamois du mot « dé » sont la seule contribution que l'espèce humaine puisse, veuille ou doive apporter à la complexité du cosmos. Oui, notre ADN est unique, mais celui d'une salamandre ne l'est pas moins. Oui, nous construisons des artefacts, mais c'est aussi le propre de nombreuses espèces allant du castor à la fourmi architecte, dont les tours crénelées sont visibles en ce moment par bâbord avant. Oui, nous tissons des objets réels à partir du fil de l'étoffe dont sont faits les rêves mathématiques. Mais l'univers est câblé d'arithmétique. Tracez un cercle et Oméga surgit. Entrez dans un nouveau système solaire et les formules de Tycho Brahe vous attendent, tapis sous la cape de velours noir de l'espace-temps. Mais où donc l'univers a-t-il caché un mot dans ses couches extérieures de biologie, de géométrie ou de roc insensé, hein ? Même les traces de vie intelligente que nous avons découvertes, les ballons de Jupiter, les constructeurs de labyrinthes, les empates sénéchiens d'Hébron, les bâtonniers de Durulis, les architectes des tombeaux du temps ou le Gritch lui-même, nous ont laissé des mystères à étudier ainsi que d'obscurs artefacts. Mais pas de langage, pas le moindre mot. Le poète John Keats écrivit un jour à son ami Bailey « Je ne suis certain de rien d'autre que du caractère sacré de l'affection du cœur et de la vérité de l'imagination. Ce que l'imagination capture en tant que beauté ne peut être que vérité. Qu'elle ait existé au préalable ou non. »